Bonjour à tous. C'est vrai qu'en ces temps de contraintes, il est bon, il est agréable de pouvoir se retrouver ensemble. C'est le psaume démonté qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et nous avons eu la joie, quand les nouvelles consignes sanitaires sont tombées, de constater que nous avions suffisamment de place. Il y a même encore des places libres, vous voyez. Il y a de la place, malgré les consignes sanitaires, d'un rang sur deux, de deux chaises vides entre chacun. Voilà, alors, il y a des absents certainement, mais on va se réjouir ensemble de pouvoir se retrouver. Aujourd'hui aurait dû être le week-end du marché de Noël. On devrait ce matin avoir quelques-unes. En général, il y a quelqu'un qui est là, qui devrait déjà être là-bas toute la matinée. Je pense à Corinne qui est souvent là-bas le dimanche. Et puis d'autres qui font des roulements, voilà. Et ça a été supprimé. Alors, je me suis dit, où est Noël? Où est l'esprit de Noël? Et puis dimanche dernier, en rentrant à la maison, ma femme m'a dit, ah, j'aimerais bien, selon la tradition un petit peu helvétique et dans les pays allemands, aussi germaniques, mettre sur la table une couronne de l'Avent, c'est-à-dire compter les dimanches qui nous séparent de Noël, un peu comme un calendrier d'Avent, mais sur les dimanches où on allume une bougie dimanche après dimanche. Aujourd'hui, ce serait la deuxième, jusqu'au dimanche qui précède Noël, pour marquer notre impatience, notre espérance, notre attente sur cette fête de Noël avec ce qu'elle comprend de sens, qu'elle porte comme sens. Alors je me suis dit, je vais parler de Noël aujourd'hui, puisqu'on est au mois de décembre. Je trouve que c'est une bonne opportunité. J'y ai pensé au mois de juillet, mais ça me semblait moins pertinent. Allez savoir pourquoi. Noël. S'il y avait un titre à donner à cette parole de ce matin, ce serait Noël, la lumière de Dieu. Pour que l'homme devienne lumière. La lumière de Dieu pour que l'homme devienne lumière. J'aimerais lire avec vous quelques passages. Le premier, on va bien évidemment le trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Un autre peut-être plus étrange. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 14, un homme qui était aveugle et qui a été guéri par le Christ. Or, c'était un jour de sabbat, c'était le week-end, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur a dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois la lumière. » Je vois, je ne suis plus dans les ténèbres. J'aime ce verset parce que ce verset parle notamment du Fils de l'homme. Il a fait de la boue. Or, le Fils de l'homme, dans la tradition judaïque, c'est le premier Adam. Et Adam, c'est poussière, terre rouge. Le Fils de l'homme, le Fils de la terre. Cet homme, selon le cœur de Dieu, tel qu'il l'avait prévu, a fait de la boue, c'est-à-dire il a fait quelque chose avec lui-même, avec ce qu'il est, homme de la terre. Il a fait de la boue, il s'est donné, il l'a mis sur mes yeux et je vois. La lumière est entrée dans ma vie. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Belle parole. L'étoile du matin. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Puis enfin, deux autres versets, très rapidement, c'est un peu de lecture, mais dans Apocalypse 22, 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Mais enfin, dernier verset, tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 2. C'est tout au début, quand les mages arrivent à Jérusalem, au moment du roi Hérode, ils se lèvent, ils sont mis en route, et quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Au verset 10 du chapitre 2 de Matthieu, « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Des paroles qui nous parlent de la place, du rôle que le Christ a et qui est illustré par le principe de la lumière ou de l'étoile. Noël, depuis le commencement, est une histoire, un récit qui parle de lumière qui est confrontée aux ténèbres de ce monde, mais aussi aux ténèbres qui règnent dans le cœur et dans la vie des hommes et des femmes, séparés de Dieu. C'est étrange parce qu'en fait, ce message de lumière qui s'attache à la bonne nouvelle, à l'évangile, à cette lumière qui surgit au milieu des ténèbres, c'est le seul symbole que le monde a retenu de Noël. Depuis quelques semaines, voire depuis la mi-novembre, je vois les services techniques qui installent les guirlandes dans les arbres, au fronton des mairies, dans les rues. Les ronds-points sont équipés, entre Kevin et Gestel, de sapins qui sont coupés avec des cadeaux qui sont accrochés, des gros paquets rutilants, brillants, avec des gros rubans. Et la lumière brille, et c'est la seule chose que l'on retient de Noël. La lumière, mais une lumière vide de sens. Vide de sens. Je me disais, en allant faire mon footing entre Kevin et Gestel, c'est pour vous montrer que je suis sportif. À la retraite, mais sportif. Et quand je partait vers Gestel, tout à coup, le soleil a tapé sur un de ses cadeaux, un gros paquet installé sur le rond-point de Gestel pour marquer Noël. Je vous invite à la nuit tombée à aller sur le rond-point entre Kevin et Gestel et à prendre un de ces cadeaux et à le ramener chez vous et à l'ouvrir. Ce cadeau sera comme Noël est pour la plupart de ce monde. Il est vide. Il n'y a rien. Quelle est la lumière qui brille aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, dans ce monde? Jésus, on peut le dire, continue à fasciner. On l'aime pour son message d'amour, pour la sagesse qu'il a posée pendant ces 3 années, on est même, certains disent que le message de Christ a servi de base et de fondement pour établir les droits de l'homme, tant son discours a été un discours marqué pour souligner la dignité, l'égalité des hommes entre eux, et des hommes et des femmes. Ouais. Il fascine. La religion. La religion aujourd'hui est plutôt soupçonnée d'être porteuse d'un message d'intégrisme, aussi bien pour l'islam que pour le christianisme. On considère aujourd'hui que la religion est source d'obscurantisme, source de violence, de misogynie. Il y a même un philosophe qui, au début, m'intéressait beaucoup parce qu'il est à l'origine des universités populaires de Caen, ma région, et qui a eu un certain succès en s'attaquant violemment aux religions et en estimant qu'elles étaient coupables de nier la vie, le corps, la culture. Ouais. La Bible, aujourd'hui, quelle est la place de la Bible ? Dans une société judéo-chrétienne, oh, c'est juste un succès de librairie qui est intéressante au niveau littéraire, historique. Est-ce que c'est encore la parole de Dieu au milieu de nous ? Voire même dans l'Église. Jésus, je ne sais plus, il y avait des chants qu'on faisait dans les centres de vacances où on mettait sur le même piédestal, Jésus, le Dalai Lama et puis Gandhi. Mais est-ce qu'il est fils de Dieu en ce temps de Noël? Est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est la lumière qui vient éclairer les nations? Et plus précisément, est-ce qu'il est la lumière qui vient éclairer ma vie aujourd'hui, ce matin et demain? Alors, quelle est en ce temps de Noël la place de la lumière de Christ dans ma vie? Quelle est la place de la bonne nouvelle que nous avons reçue, que nous recevons et que nous avons à transmettre? La parole s'est incarnée et cette lumière est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Jean, l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, n'y va pas par quatre chemins. Voilà ce qu'il dit et proclame de Christ. Est-ce qu'en ce temps de Noël, nous sommes dans cette proclamation intérieure de vie et d'espérance? Il est la vraie lumière qui illumine tout homme et toute femme. C'est l'essentiel. Ce n'est pas un message de morale, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une sagesse et encore moins des rites religieux qui nous sont proposés. C'est une lumière véritable qui descend du trône de Dieu et vient éclairer tout homme. Voilà la bonne nouvelle que nous pouvons recevoir, que nous pouvons aimer, que nous pouvons transmettre les uns et les autres en ce temps de Noël et au-delà. Alors, en annonçant d'emblée que Jésus est la lumière venue dans le monde, Jean proclame que Jésus est la parole incarnée. Et cette parole a été faite en chair et en os. Dans le travail auquel je participe pour l'Église apostolique nationale au niveau doctrinal, j'ai commencé par tout un travail sur la création. Au commencement, Dieu créa. Dans ce temps auquel nous sommes soumis et qui est créé par Dieu. Le temps est créé par Dieu. Dieu est en dehors du temps. Il y a un commencement et Dieu créa. Commencement. Dieu créa. Et il créa l'homme et avec un plan, une perspective, une idée de ce que serait cette relation entre lui et l'être humain. Il y a eu la chute, il y a eu la séparation. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une deuxième thématique doctrinale. C'est la nature de l'homme. Et un peu en ce moment, comme Michel, je passe des heures à mon bureau pour travailler sur ce thème. Et quand je travaillais sur la nature de l'homme, j'ai été amené à poser ce principe premier. L'homme a été créé saint, pur et éternel. On parle souvent, on passe tout de suite à l'homme est un être pécheur. Non, au début, au commencement, Dieu créa l'homme, l'être humain, comme un être saint, pur et éternel. Ça nous pose bien des problèmes d'être éternel et d'avoir cette pensée de l'éternité qui est en nous. Et quand nous sommes confrontés à la mort qui est le fruit du péché, l'être humain se révolte. Il dit « mais je ne peux pas avoir une fin, c'est difficile à accepter ». Parce qu'il y a dans l'être humain cette pensée de l'éternité. liée à la chute qui est intervenue plus tard. Cette séparation de l'homme et de son Dieu. Et la lumière est venue dans le monde. Cette lumière. La lumière, c'est quelque chose qui nous est essentiel. Vivre dans les ténèbres, ce n'est pas pratique. La lumière, ça sert à se repérer, ça sert à éclairer les autres, ça sert à aussi à s'éclairer soi-même et de vivre. Demander aux jardiniers qui ont eu de l'expérience, c'est difficile qu'une plante vive sans lumière. Mais j'ai découvert une plante qui a besoin de vivre dans les ténèbres. C'est très particulier parce que, vous savez, tous les ans, j'aime acheter un poinsettia. Vous savez ce que c'est qu'un poinsettia ? C'est cette plante dont les feuilles supérieures au cœur sont rouges. Vous voyez ? C'est ces feuilles avec des grandes feuilles comme ça. Et puis, le sommet de cette plante, les feuilles au-dessus, c'est des plantes de Noël. Et elles meurent toutes chez moi. Elles meurent toutes. Je ne sais pas pourquoi. Puis je suis allé sur Internet pour voir, mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas ? Parce que, après 25 ans de travail, à Cardudo, on m'a offert un poinsettia. Sur les conseils, je pense, de quelqu'un qui est ici, au troisième rang, auquel les collègues ont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir avant qu'on ait la vraie fête de séparation ? Et puis cette personne a dit, ah, il aime bien les poinsettias. Fête de Noël, etc. Donc on m'a offert un petit poinsettia. Et en allant sur Internet, je me suis rendu compte que si les poinsettias meurent, c'est parce que ces plantes doivent rester plusieurs semaines dans le noir pour pouvoir continuer à se développer. C'est pratique, une plante, vous savez, qu'on vous offre. Et j'ai réussi à trouver un point noir. Elle est au pied de la chaudière, dans la cuisine, volet fermé. Je suis content, j'ai un poinsettia. Alors, de temps en temps, je le sors, je le mets sur ma table, puis je le remets dans les ténèbres. Mais c'est une exception. Les autres plantes ont besoin de lumière. L'être humain a besoin de la lumière de Christ pour vivre. Proclamer que Jésus est la lumière, c'est affirmer que Jésus voit clair, parce qu'il est la lumière, qu'il nous conduit et qu'il nous permet d'avancer vers Dieu et vers les autres. Jésus voit clair parce qu'il est la lumière. Et j'ai envie de dire, et on le retrouve dans l'évangile de Jean, Jésus voit clair sur Dieu. Je redis. Jésus voit clair sur Dieu. Parce qu'il est lumière et que sa relation avec le Père, on le retrouve dans l'évangile de Jean, dans la prière sacerdotale. Lorsque Jésus parle du Père, il dit, mais le Père et le Fils se voient, la relation est claire, parce qu'il y a de la lumière, il n'y a aucune ténèbre entre le Fils et le Père. Et vous savez pourquoi nous pouvons avoir confiance en Christ, parce qu'il est la lumière, et ce qu'il a pour rôle, c'est de nous révéler ce qu'il voit clair de Dieu pour nous le transmettre. Lire l'Écriture. Être en relation avec Christ, jour après jour, dans la prière, dans l'adoration, c'est se référer à quelqu'un qui est la source de la vérité sur qui est Dieu. Jésus voit clair sur Dieu et donc nous transmet ce qu'il voit, ce qu'il sait de Dieu et du Père. Nous, vous savez, nous avons une démarche anthropomorphique systématique. C'est-à-dire que nous attribuons à ce que nous entoure des caractères humains. Il faut voir certaines personnes qui ont un petit toutou. Oh, il lui manque plus que la parole. Tellement il est intelligent. Oh là là. Et puis il lui parle. Puis parfois je me dis, mais ils attendent que le chien réponde. C'est pas possible. Et puis on fait ça pour tout. Et on le fait aussi pour Dieu. Notre conception de Dieu, c'est une conception que nous nous construisons. Avec ce que nous avons comme concept. Ça m'a été très difficile dans ma vie de découvrir Dieu comme mon Père. Très compliqué. Simplement parce que mon Père biologique, je l'ai vu dans ma vie, je crois, une semaine, à l'âge de 29 ans, et 3 heures auparavant, dont je me souvienne. Donc quand on m'a dit que dans l'église, quand je suis arrivé, que Dieu était mon père, j'ai dit, bah alors, j'ai pas trop de chance. Un Dieu aussi absent, qui ne serait pas dans ma vie, avec lequel j'aurais aucune relation. Et puis, un homme qui a pris la place du père dans ma vie d'homme, et qui est devenu un vrai père, plein d'amour pour moi, mais alors avec tellement de complications dans sa vie personnelle que j'avais un père merveilleux que j'aimais et qui m'aimait. Mais alors, je dis, si c'est ça un père, comment je peux voir Dieu ? Difficile, parce que nous appliquons à notre vision de Dieu ce que nous imaginons ou avons vécu. C'est Voltaire qui disait... Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, c'est plutôt l'homme qui s'est forgé un Dieu à son image. Ouais. L'homme s'est forgé un Dieu à son image, qui lui corresponde. Vous savez, dans les années 80, je crois que c'est Régis Debray, un intellectuel qui a fait un parcours très particulier, qui a écrit une histoire de Dieu qui est en fait toutes les représentations que l'homme se fait de Dieu. J'ai trouvé ça intéressant. Comment est-ce que nous voyons Dieu ? Est-ce que c'est la révélation que nous avons de Dieu par Christ ? Ou est-ce que c'est ce que nous avons construit dans notre être intérieur ? Une représentation peut-être faite de peur, parce que notre Dieu étant comme notre Père, un Père fouettard, peut-être que Dieu, on le représente comme cela ? Est-ce que c'est un Dieu éloigné, absent ? Dans les lieux célestes, là, très haut, notre Père qui est aux cieux, ouais, très très loin. Parce que mon Père, il n'a jamais été présent. Est-ce que c'est un Dieu avec lequel je marchande parce que j'ai eu cette habitude-là ? Quelle est ma représentation de Dieu aujourd'hui ? Est-ce que c'est une représentation ou est-ce que c'est Jésus qui me le révèle ? J'ai envie de dire que Jésus est le révélateur du Père. Avez-vous fait un peu de photographie ? Moi, j'ai fait ça au collège biblique pour la première fois. On prend une photo, on développe des négatifs, et ensuite, ce négatif-là, on le projette avec de la lumière sur du papier qui a un traitement spécial. Et après, vous prenez cette feuille, ce papier, et vous le plongez dans un bain. Et alors ce bain est un révélateur qui fait apparaître la photo. Jésus, c'est le révélateur de Dieu. J'ai envie de dire, est-ce que je fais une analogie avec le baptême ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Jésus, lorsqu'il s'adresse à nous, nous fait apparaître le Père. Non pas ce que nous imaginons, mais sommes-nous prêts dans l'Écriture et dans notre relation à Dieu à laisser Jésus nous révéler le Père. Le faire apparaître, ce ne soit pas notre construction, mais la véritable personne de Dieu qui veut se révéler à nous. Les mages ont vu une lumière. C'est une toute petite lumière. Certains ont dit que c'était des astrologues. Mais en tout cas, ils disent à un moment donné, nous avons vu son étoile. Ils cherchaient, ils étaient en recherche. Alors, ils se fourvoyaient certainement dans des sciences particulières, etc. Mais à un moment donné, ils voient une étoile, ils disent, c'est son étoile, on va la suivre. On va suivre cette lumière. Est-ce que nous pouvons aussi être dans cette approche de Noël où Dieu, à un moment donné, a fait luire sa lumière sur nous et on a commencé où on peut commencer maintenant, là aussi, à suivre cette lumière qu'est Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, le texte que nous avons lu, se présente comme l'étoile du matin. C'est-à-dire l'étoile qui brille toute la nuit, mais qui au matin est encore visible, alors que les autres ont disparu. Est-ce que cette analogie peut être présente dans notre vie, Christ, et cette étoile, cette lumière que je peux suivre, et le jour et la nuit. Je pense pas, je n'ai pas regardé, vérifié, mais il est étrange que dans notre culture occidentale sur les étoiles, nous appelions cette étoile-là l'étoile du berger. L'étoile du matin, l'étoile du berger. J'aime imaginer en tout cas que cette coïncidence peut nous parler. Un berger, cette lumière qui nous conduit de vérité en vérité, d'essentiel en essentiel. Les mages se sont engagés dans cette démarche. Une démarche longue. Ça n'a pas été, tiens, je vois une étoile, demain on va voir qui nous sera présenté. Ça leur a pris des semaines et des semaines de marche. J'avais l'idée, il y a début de semaine, de préparer une prédication sur l'attente. Ça viendra, attendez. Mais c'est un thème qui, au cours d'une prédication de Michel, tout à coup, je me suis dit, ah tiens, ça, il y a du prof dans le monde. Ça serait, qu'est-ce que c'est que d'attendre ? Ouais, les mages, ils ont attendu plusieurs semaines avant de voir ce que l'étoile allait leur révéler pour les amener jusqu'au dessus de cette bergerie, de ce couple avec un enfant. Je ne sais pas s'il y avait un âne gris et un bœuf, mais en tout cas, il y avait l'essentiel. Ça leur a pris du temps. Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre en route pour que la lumière de Christ nous emmène dans la vérité, quel que soit le temps que cela prenne. Je pense à Omid, parmi nous, qui est parti d'un pays tellement loin, jusqu'en Suède, jusqu'ici. Que de marche, que de pas à faire pour trouver sa route, son chemin. Sur mon téléphone, depuis que je suis à la retraite, j'ai une application. Je dirais pas le nom parce que je veux pas faire de publicité, mais une application qui, quand je pars faire ou du footing ou de la marche, compte mes pas. En sachant que le minimum par jour, c'est 6000 pas. Alors c'est vrai que quand je travaillais, je devais tourner à 500. J'étais loin des 6000. Et quand je suis arrivé maintenant à faire 10 000 pas dans ma sortie, dans ma promenade, dans mon footing, je suis fier. Mais quand je pense à notre frère qui est là, ce n'est pas 10 000 pas. C'est combien de milliers, de centaines de milliers de pas pour arriver là où il est aujourd'hui ? Est-ce que là aussi, ce témoignage-là de foi, de vie, peut nous dire, et moi, comment est-ce que je marche dans ma vie spirituelle ? La lumière de Christ qui éclaire mon chemin, est-ce que c'est une lumière qui me met en route, comme les mages ? Est-ce qu'elle me permet ? Est-ce qu'elle m'engage dans un chemin de foi et de vie qui va durer dans le temps ? 6000 pas, une heure. On a beau être fier, c'est quand même de la rigolade quand on regarde ce témoignage. Je me suis mis en marche, en route, parce que la lumière de Dieu a éclairé mon chemin. L'étoile de Jean, quand Jean dit « une lumière a brillé dans les ténèbres », en effet, une étoile, c'est une lumière qui brille dans la nuit. Moi, j'aime beaucoup cette parole. C'est facile de marcher quand il fait jour. Hein ? Tout le monde est capable, mais marcher quand il fait nuit. J'ai quelques expériences amusantes là-dessus. Mais j'aime cette citation de Jean Rostand dans Chanteclair, cette pièce qu'il a écrite, où il dit « c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Croire à la lumière le jour, mais c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Quand les choses sont sombres, quand on a du mal à distinguer, croire que la lumière est là et qu'elle va advenir, et là on parle du retour de Christ. Christ est cette lumière dans notre vie. Le temps est sombre. On le sait, il y a des ténèbres, on le vit. Mais est-ce que l'étoile qui scintille, qui me montre le chemin, la lumière de Christ dans ma vie, me permet d'avancer et de croire à la lumière, je dirais, ultime, lors du retour de Christ ? Est-ce que je suis habité par cette foi-là? Le psaume qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». J'avais un pasteur quand j'avais 15-16 ans, il disait, vous savez, cette parole du psaume, elle est formidable. Et ta parole est une lampe à mes pieds, c'est-à-dire qu'elle éclaire mes pas qui sont là, les deux, trois. Si vous avez une bonne lampe, peut-être les 10 mètres. Il me disait, moi, je considère qu'en fait, cette lumière, c'est semblable à la lumière qu'il y a sur un vélo. Alors, je parle des vélos d'autrefois, pas des vélos électriques comme certains peuvent avoir, mais vous savez, la lumière sur un vélo, il disait, elle éclaire les 10 mètres qui sont devant. Mais il faut pédaler. Bah ouais, il faut pédaler. Il faut vouloir avancer. Et quand vous montez sur le vélo et que vous commencez à pédaler, ça, c'est la foi. C'est-à-dire que vous mettez votre vie en mouvement et à ce moment-là, vous savez quoi? Le miracle s'accomplit. La dynamo tourne, la lampe s'allume et vous avancez en sécurité. Ouais. Mais si vous restez immobile, les ténèbres reviennent, la lampe s'éteint et vous êtes sur le bord de la route. J'aimais beaucoup cette image-là. Christ est cette lumière qui, en nous, nous permet d'avancer. Il est cette étoile du matin dont il est parlé dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 16. Ouais. Il est cette lumière du monde. Il ne dit pas, ce texte de Jean, que cette lumière enlève toutes les ténèbres. Les ténèbres sont toujours là. Mais il est une référence, un point qui nous guide, qui nous conduit, qui éclaire notre vie depuis l'intérieur. Jésus est cette lumière pour chacun d'entre nous. Et la foi, c'est de croire dans l'étoile quand on est dans la nuit. Dans la nuit. Moi, je suis certain que certains d'entre vous se disent, oui, dans ma vie, il y a beaucoup de ténèbres. Il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. Oui, mais pour autant, la lumière de Christ est toujours là. Lui est fidèle. Je ne sais pas quand le jour se lèvera dans certains domaines de ma vie, dans telle chose, mais j'ai cette assurance, cette espérance, dans cette étoile du matin qui lèvera les ténèbres au fur et à mesure de ma marche, de ma foi, mais aussi au fur et à mesure des temps de Dieu. Et on revient sur l'attente. Attendre les temps de Dieu pour que le jour, la lumière se fasse. Est-ce que nous pouvons être nous aussi une partie de cette étoile du matin ou tenir le même rôle? Il y a dans la création, à l'heure actuelle, on le sait, des éléments ou des choses qui partagent environ 98% de ce qu'ils sont avec les étoiles. Est-ce que vous savez ce que c'est? Des choses ou des êtres qui sont constitués de 98% des éléments qu'on trouve dans les étoiles. Est-ce que vous avez une idée? Nous? C'est-à-dire que les éléments qui nous constituent, c'est 98% des éléments qui constituent les étoiles. On partage les mêmes éléments, 98%. En 84, un homme qu'on aime bien, qui est un astronome, et puis un homme qui a recherché toute sa vie à comprendre l'univers, s'appelle Hubert Reeves, a écrit un livre qui s'appelle Poussière d'étoiles. Ah, je vois, j'ai des connaisseurs là. Poussière d'étoiles. Vous savez quoi? Nous sommes des poussières d'étoiles. Mais pas n'importe laquelle. Nous sommes des poussières d'étoiles de l'étoile du matin. C'est-à-dire ce qui est de la nature de cette étoile du matin de Christ se trouve en nous. C'est pour cela que si nous proclamons, croyons, que Christ est l'étoile du matin qui éclaire nos vies, qui est venu dans le monde pour éclairer le monde, Nous sommes aussi par notre nature spirituelle de la poussière d'étoiles au milieu de ce monde. Pa, 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 pa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore dire « Moi, je ne vois rien, je ne suis rien ». Il y a quelqu'un ? Je regarde bien ? Non ? Nous sommes de la poussière d'étoiles, c'est-à-dire de la même nature que l'étoile du matin. C'est-à-dire que nous avons la même fonction au milieu de ce monde qui est dans les ténèbres. Nous sommes là pour donner aussi de la direction, donner du sens. Et à ce Noël qui n'a plus rien de spirituel, où le Christ lui-même n'est plus présent, nous sommes là pour rappeler, dire à ce monde dans les ténèbres, levez vos têtes. Levez vos têtes. C'est une chercheuse qui récemment a pris la parole et qui est une personne très importante. J'ai oublié son nom. Fatoumata Kébé, qui disait, en s'appuyant sur Hubert Reeves, il dit « Oui, effectivement, nous sommes de la même nature, nous sommes des poussières d'étoiles. » Et elle dit « Ce qui est triste, c'est que nous ne puissions plus ou nous n'ayons plus le réflexe de lever les yeux pour regarder les étoiles. Nous sommes au ras des pâquerettes à voir les ténèbres et la nuit, mais levons les yeux, voyons la lumière qui est là et qui brille dans le ciel. » Elle a écrit sa thèse sur les débris spatiaux et elle dit « Mais maintenant, l'espace est rempli. » Là, en ce moment, ils sont en train d'inventer des poubelles qu'ils enverraient dans le ciel, ou en tout cas dans le cosmos, pour aller ratisser et ramener les débris. Je dis, mais on est dans quelle époque ? On a déjà du mal à nettoyer la Terre. On va aller nettoyer le ciel. Et elle disait, voilà, nous sommes là aussi des poussières d'étoiles. Nous sommes des êtres, elle dit, nous sommes des êtres stellaires. Moi, j'ai envie de dire, nous sommes des fils et des filles de Dieu et du royaume des cieux. Alléluia. Être une étoile aujourd'hui au milieu de ce monde dans les ténèbres, être une étoile qui brille dans les ténèbres, capable de guider les autres, de les amener à Christ, qui suis-je ? Quelle lumière ai-je en moi ? Alors, on se regarde et on se dit, Ouais, je n'ai pas beaucoup de capacité, mais je suis de la poussière d'étoiles au milieu de ces ténèbres. Christ, le Père, l'Esprit Saint en moi, me fait briller et me permet de donner une direction là, et du sens à ce monde. Il paraît que le monde est rempli d'étoiles. Je le lis dans les journaux. Ah, il y a une étoile là. Ah, il y a une étoile là. Ah, regardez cette étoile là qui marche là. Oh, elle est en train de manger au reste. Des stars, ils appellent ça. Puis quand vous les voyez, ces étoiles là, ces stars, ben on s'aperçoit qu'au fil des années, ça brille de moins en moins. Ce sont rares les étoiles qui continuent de briller pendant 40, 60 ans. Mais nous, nous sommes de ces étoiles-là, parce que issus de Dieu. Alors il convient pour nous de regarder ce que Christ est, cette étoile du matin, au milieu de ce monde. Et dans ce temps de Noël tout particulièrement, j'ai envie de dire, n'hésitons pas à dire quel est le sens de ce temps. Cet avant. Là, il y a des opportunités. Joyeux Noël. Ah oui, pourquoi tu me souhaites joyeux Noël ? C'est quoi pour toi ? Est-ce que c'est une très bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une nouvelle ? Est-ce que c'est une lumière qui est rentrée dans ta vie ? Le monde le partage avec nos familles, avec nos enfants, avec nos proches. En tout cas, être là aussi, de cette poussière d'étoiles au milieu du monde. Seigneur, nous voulons, en ce temps d'avant, ne pas être dans la même position, la même attitude que ce monde, vide de sens, de ces cadeaux exposés qui n'ont rien à l'intérieur, de ces lumières froides qui brille dans nos rues. Donne-nous véritablement de proclamer celui qui est la lumière venue dans le monde pour éclairer les ténèbres de l'humanité. Donne-nous de proclamer que tu es véritablement toi, Jésus, cette étoile du matin qui donne tout son sens au salut manifesté à Golgotha. De Bethléem à Golgotha, de Golgotha jusqu'à ton trône dans le ciel, de ton trône dans le ciel jusqu'à ton retour sur cette terre. Quelle lumière éclatante de ta gloire, de ta sainteté. Donne-nous dans ces jours qui viennent de nous centrer sur toi, de nous rappeler que tu as fait de nous des poussières d'étoiles, des étoiles au milieu de ce monde qui peuvent briller, éclairer, annoncer la bonne nouvelle, mais que nous ne soyons pas non plus des paquets cadeaux rutilants, mais vides. Tu es en nous et nous sommes en toi. Que ton nom soit béni. Amen.